إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous allons terminer ce soir, inshallah ta'ala, le chapitre du jeûne tiré du livre Manhaj al-Salikin de l'éminent Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Nasi'adi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes au passage où l'auteur rahimahullah ta'ala a commencé à citer un certain nombre de hadiths afin de nous clarifier certaines règles liées au jeûne. Et parmi celles-ci, les choses recommandées durant le jeûne. Il a donc dit, rahimahullah, « وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه. » Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « Les gens ne cesseront d'être sur le bien tant qu'ils hâteront la rupture. » C'est-à-dire tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Il est donc recommandé pour le jeûneur d'hâter la rupture dès qu'il a la certitude que le soleil s'est couché. C'est-à-dire que s'il se trouve dans un endroit à la plaine désertique et qu'il peut observer le coucher du soleil à l'horizon, alors, une fois que le disque solaire aura totalement disparu, la sunna est de s'empresser de rompre le jeûne. Et on va voir à travers un des hadiths suivants par quoi il est recommandé de rompre le jeûne. Et si tu n'observes pas le coucher du soleil là où tu te trouves, comme c'est le cas de la plupart des gens qui se trouvent en ville, alors dans ce cas-là, tu te baseras sur l'appel à la prière fait dans les mosquées. Ou alors, si tu te trouves dans un endroit où tu n'entends pas l'appel à la prière des mosquées, tu te baseras sur l'heure à laquelle est fait cet appel dans les mosquées pour rompre ton jeûne. Et il ne convient pas de retarder la rupture du jeûne après le coucher du soleil. Même si tu es occupé, même si tu ne vas pas immédiatement t'arrêter pour prendre ton repas, il convient de rompre ton jeûne ne serait-ce qu'avec une date ou une gorgée d'eau. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit « وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه » Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « Prenez le sahur, car il y a en lui une bénédiction. » Donc le sahur, c'est le nom du repas qui est pris avant l'aube lorsque l'on jeûne. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous enjoint donc dans ce hadith de prendre ce repas. Et il nous précise qu'il y a en ce repas une bénédiction, aussi minime soit-il, même si tu ne prends qu'une gorgée d'eau, il y a en celle-ci de la baraka. Premièrement, tu es récompensé pour avoir mis en pratique cette sunna qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, tu tires profit de ce repas qui te donnera la force de patienter à jeun jusqu'au coucher du soleil. Il est donc recommandé pour le jeûneur de veiller à prendre ce repas et de ne pas le négliger. Et la sunna est également de le retarder, comme le démontre le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Zayd ibn Thabit, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « Nous prenions le sahur avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous levions pour aller accomplir la prière. On lui a alors demandé « Combien de temps séparait le suhur de la prière ?» Il répondit « Le temps de réciter une cinquantaine de versets. » Il fait donc aussi partie de la sunna de retarder le suhur et de le prendre seulement quelque temps avant le lever véridique de l'aube, l'entrée du temps de la prière du fajr. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit « وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَا فَإِنَّهُ طَهُورٌ رواه الخمسة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous rompt C'est-à-dire lorsque l'un d'entre vous rompt son jeûne, qu'il le rompe avec des dattes. Et s'il n'en trouve pas, alors avec de l'eau, car elle est une purification. Il est donc recommandé de rompre son jeûne avec des dattes. Et il est préférable, si cela est possible, que ces dattes soient fraîches. Comme cela est confirmé dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et d'autres, et jugé authentique par Al-Albani. D'après Anas, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de rompre son jeûne avec des dattes fraîches avant de prier. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avant la prière du maghrib, c'est-à-dire une fois le temps entré, il rompait son jeûne, puis il allait prier. Donc tout d'abord avec des dattes fraîches, si c'est possible. S'il n'y en avait pas, alors avec des dattes sèches. Et s'il n'y en avait pas, alors il buvait quelques petites gorgées d'eau. Ceci est donc la sunna pour la rupture du jeûne. Et on voit à travers cela également l'erreur de nombre de personnes qui font précéder le repas à la prière. C'est-à-dire que durant le mois de Ramadan, ils retardent la prière du Maghreb pour la faire précéder du repas de la rupture. Or, ceci est contraire à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme tu viens de l'entendre dans ce hadith, il ne rompait son jeûne qu'avec quelques dattes, fraîches ou sèches, ou alors avec quelques gorgées d'eau. Puis il allait prier. Il te suffit donc à ce moment de prendre quelques dattes, quelques gorgées d'eau, ou autre, puis d'aller prier la prière du Maghreb. Et après cette prière, tu pourras prendre tranquillement ton repas, inshallah ta'ala. Ceci sont donc quelques hadiths que le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionnés au sujet des choses recommandées durant le jeûne. Et parmi les choses recommandées que j'aimerais ajouter aussi, il y a le fait de multiplier les invocations. Et pas seulement au moment de la rupture, car l'invocation, pour le jeûneur, elle est recommandée tout au long de la journée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du père, l'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. Et dans une autre narration du hadith, il a dit, les invocations de trois personnes ne sont pas rejetées. Et il a mentionné parmi eux le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe. Donc lorsque tu jeûnes de l'aube jusqu'au coucher du soleil, c'est un moment propice à l'invocation. Il te convient donc d'en profiter pour faire preuve d'humilité devant ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et lui adresser tes demandes parmi les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Et certes, comme il est venu dans le hadith, l'invocation et l'adoration. Donc ceci fait partie des formes d'adoration les plus nobles que le musulman ne doit pas négliger. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un hadith faisant référence au comportement du jeûneur. Mais avant cela, j'aimerais brièvement mentionner quelques points concernant des choses qui sont détestables lors du jeûne. En effet, il y a certaines choses qu'il est détestable pour le jeûneur d'accomplir, car celles-ci pourraient compromettre son jeûne ou en diminuer sa récompense. Parmi ces choses, premièrement, il y a l'exagération lors du rinçage de la bouche et du nez lors des ablutions, et ce par crainte que l'eau atteigne l'estomac. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, insiste lors du rinçage du nez, sauf si tu jeûnes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la sunna lors des ablutions est d'insister lors du rinçage du nez. Mais si tu jeûnes, tu rinces ton nez sans insister, par crainte que de l'eau atteigne ton estomac. Et si involontairement, une goutte d'eau s'infiltre et que tu l'avales sans faire exprès, alors il n'y a pas de jeûne en cela et ton jeûne n'est pas invalidé, bi'idhnillahi ta'ala, comme on l'a mentionné dans le cours d'hier. Également, parmi les choses qui sont détestables lors du jeûne, il y a le fait de se mettre dans une situation qui éveillera ses désirs, notamment si la personne fait partie de ceux qui ne savent pas se contrôler. Il est donc détestable pour le jeûneur d'embrasser son épouse si cela peut conduire à éveiller ses désirs qui pourraient le mener à la corruption de son jeûne. Et s'il ne craint pas cela, alors il n'y a pas de mal et cela est permis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses lorsqu'il jeûnait, comme rapportent les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui a dit « Et il était le plus apte parmi vous à contrôler ses désirs. Donc celui qui ne craint pas la corruption de son jeûne, il n'y a pas de mal en cela. Mais celui qui sait qu'il aura du mal à se contrôler, alors il lui convient de s'écarter de ces situations. Et de la même manière, tu dois t'écarter de tout ce qui pourrait éveiller tes désirs. Et d'autant plus si ce sont des choses qui ne te sont pas licites. Également parmi les choses qui sont détestables durant le jeûne, il y a le fait de goûter la nourriture sans nécessité. En effet, il est permis pour celui ou celle qui cuisine et qui a besoin de goûter ce qu'il est en train de préparer afin de voir, par exemple, si cela est assez salé ou assez assaisonné ou autre. Dans cette situation, il n'y a pas de mal, tout en prenant garde que rien n'atteigne sa gorge, c'est-à-dire en se rinçant après cela immédiatement la bouche. Mais s'il n'y a pas de nécessité, alors ceci est détestable et il convient de l'éviter. Revenons donc à la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala qui a dit « وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَضَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيِّ » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne délaisse pas les paroles fausses et leur mise en pratique et l'ignorance, alors Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, par ce hadith, attire notre attention sur le fait que le jeûneur se doit d'adopter un certain comportement lorsqu'il jeûne. Il ne convient pas que, lorsque tu jeûnes, ton comportement soit semblable à ton comportement lors des jours où tu ne jeûnes pas. Car comme on l'a vu dans le premier cours de ce chapitre, le jeûne a pour objectif de mener à la piété. « La'allakum tattaqoun » Ainsi atteindrez-vous la piété. Et la piété, on a vu que elle consiste à te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant et à te soumettre à ses interdits en les délaissant et t'en écartant. Donc lorsque tu jeûnes, tu dois redoubler d'efforts en cela, faire plus d'efforts dans l'accomplissement de tes obligations, multiplier également les œuvres de bien parmi les œuvres surérogatoires. Et également, tu dois lutter contre ton âme et la contraindre à délaisser les péchés et les mauvaises actions. Et ce, de manière générale. Que ce soit les péchés de la langue, comme le mensonge, la calomnie, la médisance, et ainsi de suite, ou alors encore les paroles vulgaires, mais également les péchés des yeux, comme le fait de regarder ce qu'il ne t'est pas permis de regarder, mais aussi les péchés de l'ouïe, en écoutant ce qu'il ne t'est pas permis d'écouter, parmi les paroles interdites, ou alors la musique ou autre, et ainsi de suite parmi les péchés et les mauvaises actions. Lorsque tu jeûnes, tu dois redoubler d'efforts en cela. Ceci est demandé de toi tout au long de l'année. Mais lorsque tu jeûnes, cela est encore plus nécessaire. Comme on l'a mentionné, le jeûne, cela ne signifie pas seulement cesser de boire et de manger. Mais dites sur ce hadith, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Car ce n'est pas cela l'objectif du jeûne. L'objectif du jeûne, ce n'est pas de t'affamer, ni de t'assoiffer. Mais l'objectif du jeûne, c'est de te mener à la piété et à parfaire ton comportement. C'est-à-dire que le Ramadan, ce mois qui arrive, cela doit être pour toi comme une école où tu vas te former. Et tu dois faire en sorte de ressortir de ce mois meilleur que tu ne l'étais avant. Tu dois prendre des résolutions, faire en sorte de t'améliorer. Car si ta situation après le mois de Ramadan est semblable à celle d'avant ce mois, cela signifie que tu n'as pas profité de ce mois. Car en ce mois, tu vas jeûner, tu vas prier la nuit, tu es censé multiplier les bonnes actions, t'écarter des péchés. Donc ceci doit te mener à la piété, te mener à la réforme, te mener à te corriger, te mener à t'améliorer. Donc si ta situation n'a pas changé à la fin de ce mois, cela signifie que tu n'en as pas profité. Donc chacun d'entre nous doit avoir en tête ce hadith tout le long du mois de Ramadan. Celui qui ne délaisse pas les paroles fausses et leur mise en pratique, qui ne délaisse pas le faux de manière générale, parmi les péchés, les mauvaises actions et autres, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question avant l'arrivée de ce mois et faire des efforts pour se réformer. Et je vous invite à écouter un cours que je donnais l'an passé sur le comportement du jeûneur. Vous y trouverez plus de détails à ce sujet, Inch'Allah ta'ala. Également parmi les choses légiférées en termes de comportement lorsque tu jeûnes, Il y a le fait de ne pas répondre à celui qui t'injurie. Si une personne vient à toi et te parle mal, qu'il te dénigre ou t'insulte, alors il ne convient pas que tu lui répondes. En effet, les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne prononce aucune parole honteuse et qu'il ne fasse pas de vacarme. On revoit ici l'importance d'éduquer sa langue lors du jeûne. Faire attention aux paroles que tu prononces. Et faire des efforts pour mettre en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste sur cela dans ce hadith et nous dit: lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne prononce aucune parole honteuse et qu'il ne fasse pas de vacarme. Et si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, alors qu'il dise: je suis jeûneur. Je jeûne, c'est-à-dire qu'il ne lui répond pas à son insulte, mais il lui fait savoir qu'il est en adoration et que cette adoration exige de lui qu'il ne réponde pas à cette mauvaise parole. Ceci est donc un des comportements qu'il convient d'adopter lorsque tu jeûnes. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith afin d'attirer notre attention sur une autre question importante liée au jeûne et qui concerne celui qui meurt alors qu'il lui restait des jours de jeûne à rattraper. Il a dit: wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man mata wa alayhi siyam, sama anhu waliyuhu. Muttafaqun alayhi. Celui qui meurt alors qu'il avait un jeûne à accomplir, ses proches ou ses héritiers jeûneront pour lui. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc, si un musulman a manqué des jours du mois de Ramadan, en raison d'un voyage, ou en raison d'une maladie dont il a guéri, ou alors, en ce qui concerne la femme, en raison de l'allaitement, de la grossesse, ou des menstrues, ou autre raison, et que cette personne a tardé à rattraper ses jours, étant donné que on a jusqu'au Ramadan suivant pour rattraper ses jours manqués, cette personne a tardé, ne les a pas rattrapés, puis elle est morte avant de pouvoir les rattraper. Dans ce cas-là, il est légiféré pour ses proches de rattraper ses jours pour lui. Et certains parmi les gens de science ont précisé que les proches ici sont les héritiers. Et le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit que même si une autre personne jeûne pour lui, même s'il n'est pas de sa famille, alors ceci est valide, inshallah ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, a été interrogé par un homme qui lui a dit: ô messager d'Allah, ma mère est morte alors qu'elle avait un mois de jeûne à accomplir. Est-ce que je jeûne pour elle, c'est-à-dire je jeûne à sa place, pour rattraper ce mois qu'elle n'a pas fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: vois-tu, si ta mère avait des dettes, t'en serais-tu acquitté? Acquittez-vous de cela pour Allah, car Allah est plus en droit que l'on s'acquitte de cela. Donc ce hadith est une preuve très claire que celui qui meurt alors qu'il avait un jeûne obligatoire à accomplir, que ce soit des jours de jeûne de Ramadan qu'il a tardé à rattraper, alors qu'il pouvait les rattraper, ou alors un jeûne obligatoire suite à un vœu, ou un jeûne obligatoire suite à une expiation de laquelle il devait s'acquitter, alors ses héritiers ou ses proches ou autres jeûneront pour lui. Toutefois, il est à souligner que si une personne n'a pas jeûné durant le mois de Ramadan et qu'elle n'a pas été négligente, par exemple, elle a rompu durant le mois de Ramadan en raison d'une maladie, puis elle est morte de cette maladie. Dans ce cas-là, il n'incombe rien à ses proches et à ses héritiers, car celui-ci n'a pas été négligent. Il ne lui incombe ni rattrapage, ni compensation, car il est mort de cette maladie qui l'empêchait de jeûner. Il en est de même concernant la femme qui, par exemple, ne jeûne pas car elle est enceinte ou elle allaite, puis qui meurt après le mois de Ramadan, alors qu'elle était toujours enceinte ou toujours en train d'allaiter. Dans cette situation, il n'est pas demandé à ses proches de rattraper ses jours manqués, car son excuse a continué jusqu'au moment de sa mort et elle n'a pas été négligente. Mais cela concerne seulement le malade, qui a été malade durant le mois de Ramadan, puis qui a été guéri et qui aurait pu rattraper, mais qui a tardé. Ou alors, la femme enceinte ou celle qui allaite, qui n'a pas jeûné durant le mois de Ramadan, puis qui après aurait pu rattraper ses jours mais a tardé. Ou alors le voyageur qui n'a pas jeûné, qui aurait pu après rattraper ses jours, mais qui a tardé. Dans ces situations, s'il meurt, alors on rattrapera les jours pour lui. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, va commencer à nous citer un certain nombre de hadiths au sujet du jeûne recommandé. En effet, il fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde envers ses serviteurs, qu'il a légiféré pour nous des œuvres surérogatoires semblables aux œuvres obligatoires. Et ce, afin de nous permettre d'augmenter nos récompenses et de combler les manquements ainsi que les erreurs qui peuvent se produire dans nos œuvres obligatoires. En effet, comme on l'a vu dans des cours précédents lors du chapitre de la prière, que la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur au jour de la résurrection, c'est sa prière. Et que s'il y a des manquements dans celle-ci, il sera dit, regardez si mon serviteur a des prières surérogatoires. Et s'il en a, elles viendront alors combler les manquements qu'il a eus dans ses prières obligatoires. Il en est de même pour la zakat, et il en est de même pour le jeûne, et ainsi de suite parmi les œuvres. Donc les manquements ou les négligences ou les erreurs que tu peux faire durant ton jeûne obligatoire, si tu multiplies le jeûne surérogatoire, ceci permettra de combler cela. Car les œuvres surérogatoires compléteront les œuvres obligatoires au jour de la résurrection. Et ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh rahimahullah ta'ala a donc dit: Wa su'ila sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmi Arafah. Faqal yukaffiru sanata al-madiyah wal-baqiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du jeûne du jour de Arafah. Il a dit, il expie l'année passée et l'année suivante. On voit donc que jeûner ce jour permet aux musulmans d'obtenir une grâce immense, l'expiation des péchés de 2 années. Et le jour de Arafah, c'est le 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, le 12e mois du calendrier égyrien. Et c'est la veille de la fête du sacrifice. Il est donc fortement recommandé pour le musulman de jeûner le jour de Arafah, à condition qu'il ne soit pas au pèlerinage. Car il ne fait pas partie de la sunna pour le pèlerin de jeûner le jour de Arafah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son pèlerinage, il n'a pas jeûné durant ce jour et n'a pas légiféré au pèlerin de le jeûner. Car en ce jour, le pèlerin stationne à Arafah et il a besoin de force pour multiplier l'adoration et les invocations. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « Wasu'ila an siyami ashura, faqal yukaffiru sanata al-madiyah. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé au sujet du jeûne de Ashura. Et il a dit « Il expie, c'est-à-dire les péchés, de l'année passée. » Donc après le jeûne de Arafah vient le jeûne de Ashura, qui est le 10e jour du mois d'Al-Muharram. Al-Muharram qui est le premier mois de l'année égyrienne. Et ce mois est un mois durant lequel le jeûne est fortement recommandé de manière générale. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur jeûne après celui de Ramadan est celui du mois d'Allah Al-Muharram. Cela veut dire que durant tout ce mois, il est recommandé de multiplier le jeûne. Et plus particulièrement, il est recommandé de jeûner le 10e jour, qui est le jour de Ashura. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et son peuple et a anéanti Pharaon et son peuple. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a vu que les Juifs jeûnaient ce jour-là. Il les a donc interrogés à ce sujet et ils ont répondu, c'est le jour où Allah a sauvé Moussa et son peuple et a anéanti Pharaon et son peuple. Moussa a jeûné ce jour pour remercier Allah à titre de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous le jeûnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, nous sommes plus dignes de Moussa que vous. Puis, il a jeûné ce jour et a ordonné de le jeûner. Il fait donc partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner le jour de Ashura qui est le 10e jour du mois d'Al-Muharram. Et la sunna est également de jeûner un jour avant ou un jour après, ou alors un jour avant et un jour après. Car il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit jeûner un jour avant et un jour après, et dans une autre narration jeûner un jour avant ou un jour après. Et dans un autre hadith, il a dit, si je suis encore vivant l'an prochain, je jeûnerai certes le 9e jour, c'est-à-dire le 9 et le 10 del Muharram, et ce afin de se distinguer des Juifs. Car il est légiféré pour le musulman de se distinguer de manière générale, et plus particulièrement dans ses adorations, des gens de la mécréance parmi les gens du livre, les polythéistes ou autres. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a dit « وَسُئِلَ عَنْ سَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالْ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَبُعِثْتُ فِيهِ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٍ » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé au sujet du jeûne du lundi. Il répondit « Ceci est le jour où je suis né, et le jour où j'ai été envoyé, ou le jour où on a descendu sur moi la révélation. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Il est donc recommandé, tout au long de l'année, de jeûner le lundi. Et dans un autre hadith, il est aussi mentionné le jeûne du jeudi, comme le rapporte Aïcha radiallahu ta'ala anha qui a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi et le jeudi. » Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi. J'aime donc que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. » Ceci nous indique donc qu'il est recommandé pour le musulman de jeûner les lundis et le jeudi de manière générale tout au long de l'année. Ensuite, il a dit, rahimahullah, « وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ صَامَ رَمَضَانِ ثُمَّ أَدْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالِ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهَرِ رواه مسلم. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est-à-dire de 6 jours de jeûne durant le mois de Shawwal, cela est comme le jeûne d'une année. » Rapporté par l'imam muslim. Ceci concerne donc ce qu'on appelle le jeûne de Shawwal. Shawwal qui est le mois qui suit le mois de Ramadan. Il est recommandé durant ce mois de jeûner 6 jours qui sont des jours surérogatoires. Et cela est recommandé pour celui qui a jeûné le mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'une fois le mois terminé, si tu l'as jeûné entièrement, alors, dès le 2e jour du mois de Shawwal, après le jour du Eid, il est recommandé pour toi de jeûner 6 jours surérogatoires. Et ce n'est pas une condition de les jeûner immédiatement. Et ce n'est pas une condition non plus de les jeûner de manière consécutive. Mais tu peux jeûner 6 jours éparpillés durant le mois de Shawwal. Et il n'y a pas de gêne en cela. Et il n'y a pas de doute que plus la personne s'empresse à faire le bien, mieux cela est pour elle, car on ne sait pas ce qui pourrait s'interposer entre nous et les œuvres de bien. Quant à celui qui a manqué des jours du mois de Ramadan, que ce soit en raison d'un voyage, d'une maladie, des menstrues ou autre, alors il incombe tout d'abord de rattraper les jours manqués. Puis, s'il en a la capacité de faire suivre cela des 6 jours recommandés du mois de Shawwal. Car comme vous l'avez entendu dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne Ramadan, c'est-à-dire qui a jeûné le mois de Ramadan dans son intégralité, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, alors c'est comme s'il avait jeûné une année. » Pourquoi cela est comme s'il avait jeûné une année? Car, comme il est venu dans les textes, la hasana, la bonne action, est récompensée par 10 semblables à elle. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné durant 10 mois, en termes de récompense. Donc s'il fait suivre cela de 6 jours, c'est comme s'il avait jeûné durant 60 jours, c'est-à-dire 2 mois. En faisant cela, il aura donc la récompense du jeûne d'une année. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « وَقَالَ أَبُو ذَرْ رَضِيَ ta'ala anhu أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرَ 3 أَيَّامٍ 13 و14 و15 رواه النسائي والترمذي رحمهما الله تعالى. أبو ذر رضي الله تعالى عنه a dit dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de jeûner 3 jours par mois. Et l'ordre ici indique la recommandation. Le 13e jour, le 14e jour et le 15e jour. Donc ce jeûne est ce que l'on appelle le jeûne des jours blancs. le 13, le 14 et le 15 de chaque mois lunaire. Ce sont les jours où la lune est pleine. Et celui qui jeûne ainsi 3 jours par mois, il aura également la récompense du jeûne d'une année, pour la même raison que l'on a mentionné pour les jours de Shawwal. Car en jeûnant 3 jours, il a la récompense du jeûne de 30 jours. Donc en jeûnant 3 jours par mois, c'est comme s'il jeûnait tout au long de l'année. Et il est à souligner que cette recommandation, elle n'est pas spécifique au 13, au 14 et au 15. En effet, cette recommandation est venue de manière plus générale, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu, jeûne 3 jours de chaque mois, car la bonne action en vaut 10, et ceci équivaut donc au jeûne d'une année. Et Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit, mon ami privilégié, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé 3 choses. Et parmi ces 3 choses, jeûner 3 jours chaque mois. Il est donc recommandé, de manière générale, de jeûner 3 jours durant le mois, quels que soient ces jours. Et plus particulièrement, il est recommandé que ces 3 jours correspondent aux jours blancs, comme on a dit qu'ils sont le 13e, le 14e et le 15e de chaque mois lunaire. Comme le démontre le hadith de Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a cité. Également parmi les jeûnes recommandés, que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, n'a pas cité ici, il y a ce que l'on appelle le jeûne de Daoud, alayhi salam, et qui consiste à jeûner 1 jour sur 2. Et ceci est la meilleure des formes de jeûne surérogatoire. En effet, l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le meilleur jeûne est celui de Daoud alayhi salam. Il jeûnait 1 jour et rompait 1 jour. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné des hadiths au sujet des jeûnes qui sont interdits ou détestables. Il a commencé par le jeûne interdit et il a dit: Wanaha an siyami yawmayn, yawm al-fitr wa yawm al-nahr, muttafaqun alayhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jeûne de 2 jours. Le jour de la rupture et le jour du sacrifice. Il est donc interdit pour le musulman de jeûner durant les 2 jours de fête. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner durant ces 2 jours. Le jour de la rupture de votre jeûne et l'autre jour est celui durant lequel vous mangez de vos sacrifices. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il est donc interdit pour le musulman de jeûner durant les jours de fête. Et s'il jeûne, son jeûne n'est pas valide. Et également, parmi les jours de jeûne qui sont interdits, il y a ce que l'on appelle le jour du doute, qui est le 30e jour de Sha'ban, le mois dans lequel nous sommes actuellement. Comme on a vu dans un cours précédent, la nuit suivant le 29e jour, les musulmans cherchent à voir la nouvelle lune. S'ils la voient, le mois de Ramadan va entrer dès ce moment. Ils prieront donc durant cette nuit, puis jeûneront le lendemain. Mais s'ils ne peuvent pas voir la lune, si par exemple le ciel n'est pas dégagé, alors ils devront compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Et dans cette situation, il n'est pas permis de dire « je jeûne ce jour par précaution », car ceci n'est pas légiféré. Il est rapporté de Ammar, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit « quiconque jeûne le jour du doute » a certes désobéi à Abul Qasim, c'est-à-dire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne fasse pas précéder Ramadan d'un ou 2 jours de jeûne, sauf un homme qui avait pour habitude de jeûner alors qu'il jeûne ce jour. À titre d'exemple, cette année, il se peut que Ramadan commence un mardi. Si une personne a l'habitude tout au long de l'année de jeûner les lundis et les jeudis, alors il n'y a pas de mal à ce qu'elle jeûne le lundi précédant le mois de Ramadan, car ceci est son habitude. Elle n'a pas spécifié ce jour particulièrement. Mais si une personne n'a pas cette habitude, alors il ne lui est pas permis de faire précéder le mois de Ramadan d'un jour de jeûne qu'elle jeûnerait par précaution. Car le jeûne du mois de Ramadan, il est lié à la vue de la nouvelle lune. Il n'est donc pas légiféré de s'imposer cela. Et on exclut également de cette interdiction celui à qui il resterait Un jour de rattrapage du mois de Ramadan précédent. Celui-ci n'aura pas seulement le droit, mais il aura l'obligation de jeûner. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit وقال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les jours de tashriq sont des jours pour manger, boire et se rappeler d'Allah azza wa jal. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala. Les jours de tashriq, ils correspondent aux trois jours suivant le jour du sacrifice, c'est-à-dire le 11e, le 12e et le 13e jour du mois de Dhul-Hijjah. Il est donc détestable de jeûner durant ces jours. À l'exception du pèlerin qui ne trouve pas d'offrande, il aura lui le droit de jeûner durant ces jours, comme cela est mentionné dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit وقال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que nul parmi vous ne jeûne le jour du vendredi. On voit donc qu'il est détestable de jeûner le jour du vendredi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait exception d'une situation. Il a dit, sauf s'il jeûne un jour avant ou un jour après. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Il est donc détestable de jeûner le vendredi seul. Mais si tu as jeûné le jeudi, il t'est permis alors de jeûner le vendredi. Ou alors si tu jeûnes le vendredi et que tu as pour intention de jeûner le samedi, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal d'après ce hadith. Également, cela est prouvé par un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son épouse Juwayriya radiyallahu ta'ala anha, alors qu'il est entré chez elle un vendredi et qu'elle jeûnait, il lui a dit « As-tu jeûné hier ?» C'est-à-dire « As-tu jeûné le jeudi ?» Elle répondit que non. Il lui dit « Souhaites-tu jeûner demain » C'est-à-dire « As-tu l'intention de jeûner le samedi ?» Elle lui répondit que non. Il lui a alors dit alors romps ton jeûne. Donc ce hadith nous indique très clairement qu'il ne faut pas jeûner le vendredi seul, mais que si tu l'accompagnes d'un jour avant ou d'un jour après, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala. Le cheikh a ici terminé concernant les jeûnes recommandés, interdits et détestables. Puis, il nous a rappelé ce hadith immense nous montrant le mérite du mois de Ramadan et il a dit وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui veille la nuit du destin, Laylat al-Qadr, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. On a vu dans un cours précédent ce que signifie avec foi et en espérant la récompense, c'est-à-dire avec foi en Allah et avec foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ce jeûne et à légiférer la veillée durant la nuit du destin. Et espérant la récompense, c'est-à-dire espérant la récompense qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce jeûne, en faisant cette veillée, en priant la nuit, en multipliant les adorations et ainsi de suite. Et ceci nous indique qu'il est nécessaire pour le croyant d'être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala dans l'accomplissement de ses adorations. Et ce afin de profiter de l'expiation de ses péchés passés. Et la veillée de la nuit du destin, elle se fait de manière générale dans l'adoration, à commencer par la prière de nuit, mais aussi la lecture du Coran, le rappel d'Allah, l'invocation et ainsi de suite parmi les œuvres de bien. Donc, même celle qui ne peut pas prier, elle peut tout de même profiter des mérites de cette nuit, en multipliant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et les invocations, Et notamment cette invocation immense qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-nous. Et également, elle peut en profiter par la récitation du Coran, qui est la meilleure forme de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, cette nuit, elle se trouve dans une des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. À partir de la 21e nuit, il est recommandé pour le musulman de faire des efforts pour rechercher cette nuit, en veillant durant ces nuits, en veillant bien sûr dans l'adoration, non pas dans les futilités et les divertissements. Car cette nuit vaut mieux que 1000 mois. Les adorations que tu fais durant ces nuits, elles sont meilleures que 1000 mois. 1000 mois en adoration. Tu te rends compte de l'immensité de cette récompense. Il n'y a pas de doute que celle-ci n'est pas à négliger. Et à elle seule, cette nuit, elle nous montre le mérite immense du mois de Ramadan. Enfin, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a terminé ce chapitre par une question liée au jeûne qui est la question de l'i'tikaf, la retraite pieuse dans les mosquées, qui consiste à ce que le musulman reste à la mosquée pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, rahimahullah, wa kana sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah wa i'takafa azwajuhu min ba'di. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de faire l'irtikaf les 10 derniers jours de Ramadan, et ce jusqu'à sa mort. Et après lui, ses épouses faisaient également l'irtikaf. Donc ce hadith, il nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de cette pratique chaque année durant les 10 derniers jours de Ramadan. Et ce, afin de se mettre en situation favorable à la recherche de cette nuit immense, la nuit du destin. Il restait donc à la mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, pour se consacrer à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est légiféré pour le musulman. Et c'est également permis pour les femmes, comme vous l'avez entendu, car les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pratiquaient l'irtikaf, pratiquaient la retraite pieuse, dans sa mosquée, après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, et personne parmi les compagnons ne les a blâmés pour cela. Ceci nous indique donc qu'ils étaient unanimes sur la permission à ce sujet. Toutefois, ceci est conditionné bien sûr par le fait que la femme soit à l'abri de toute tentation. Et bien évidemment qu'elle fasse cela avec l'autorisation de son tuteur, que ce soit son mari, son père ou autre. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith et il a dit « وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. » Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « On ne voyage que vers trois mosquées. La mosquée sacrée, c'est-à-dire la mosquée de la Mecque, ma mosquée, c'est-à-dire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la mosquée de Jérusalem. » Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Ce hadith, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique qu'il n'est pas permis de voyager vers un endroit quelconque sur terre, que ce soit une mosquée ou autre endroit, avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration à cet endroit, à l'exception de ces trois mosquées vers lesquels il est permis de voyager. Donc, il n'est pas légiféré de voyager à Médine avec l'intention de se rendre auprès de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais on voyage à Médine pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et non pas auprès de sa tombe. Également, il n'est pas légiféré de voyager vers les tombes et les mausolées pour vouer une quelconque sorte d'adoration. Mais ces voyages ne peuvent être entrepris qu'en direction des trois mosquées. Et si le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith ici, c'est afin de nous indiquer qu'il n'est pas permis de voyager vers un quelconque endroit afin de faire l'i'tikaf, la retraite pieuse. Mais si la personne doit entreprendre un voyage, c'est seulement vers ces trois mosquées. Toutefois, il est à souligner que si une personne voyage pour une autre raison, non pas spécifiquement pour l'adoration, mais par exemple pour la recherche de la science. Il y a dans un autre pays une mosquée où il y a des gens de science qui enseignent la religion. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à voyager vers cette mosquée. Également, si une personne voyage pour le commerce vers un endroit ou autre, alors il n'y a pas de gêne en cela. Et également, les gens de science ont mentionné que si une personne voyage pour prier dans une mosquée, mais non pas en raison de cette mosquée, mais en raison du fait que dans cette mosquée, il y a un imam qui enseigne la science, qui a une belle récitation en prière, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne. Inch'Allah ta'ala. On a donc terminé ce chapitre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et les cours sur Manhaj Salikin seront pour l'instant suspendus et peut-être que l'on reprendra plus tard, Inch'Allah ta'ala, avec le chapitre sur les règles du pèlerinage. On va donc s'arrêter là. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du shaytan. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم